me que se pastil.
Me que se pastil.
Oh, me que se passe.
Des nouvelles du monde.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Le problème de l'action intellectuelle est difficile en grande partie à cause des journalistes.
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30.
Des nouvelles du monde.
Eh bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les nouvelles du monde pour ce mardi 18 mars. Aujourd'hui, on va aller faire un petit tour en Serbie où les mobilisations contre le pouvoir en place continuent de s'intensifier. On va s'intéresser aux massacres qui ont eu lieu en Syrie sur la minorité alaouite. Des petits tours aussi par l'actualité palestinienne avec la reprise des bombardements et aussi de la répression des voix qui s'élève toujours partout dans le monde, et notamment dans les universités, pour justement contester la politique israélienne et les soutiens internationaux. Puisqu'on est à Sciences Po, on va revenir un petit peu aussi sur la grève des nettoyeurs qui a eu lieu la semaine dernière. Quelques brèves sur les nouvelles du climat, des nouvelles du carnaval de Marseille aussi. Et on finira tout ça à Sumène pour annoncer en interview un événement qui se tient ce samedi, le printemps contre le racisme. Serbie donc tout d'abord avec la contestation du régime populiste du président Aleksandar Vučić qui atteint son paroxysme. Ce samedi 15 mars, une grande manifestation monstre même a rassemblé plusieurs de dizaines de milliers de personnes à Belgrade, centaines de milliers même selon certains observateurs. Les étudiants qui mènent ce mouvement soutiennent que la formation d'un gouvernement technique qui serait en charge d'organiser les élections est la seule façon pour eux de mettre fin à la crise actuelle. Dans les colonnes du quotidien d'opposition Nova, on parle de la plus grande manifestation de l'histoire serbe. La contestation et tout ce mouvement, je vous le rappelle, a été déclenché par l'accident de la gare de Novi Sad le 1er novembre dernier, au cours duquel 15 personnes étaient mortes suite à l'effondrement d'un auvent en béton qui avait été tout juste rénové pour ce bâtiment. Une tragédie donc qui avait suscité la colère d'une grande partie des Serbes, y voyant là un symbole de la corruption endémique du pays. Ce mouvement est donc désormais plus fort que jamais, ainsi que l'a prouvé cette marche vers la capitale qui a eu lieu toute la fin de semaine dernière pour se concrétiser donc sous la forme de cette grande manifestation. Ce sont les étudiants qui sont les principaux moteurs de ces manifs, hein, ils ont annoncé d'ailleurs continuer le mouvement. Ils sont également soutenus par les enseignants, les avocats et les employés de la justice qui vont entamer là aussi une série de grèves sur le modèle des personnels des musées et des théâtres. La majorité des sportifs serbes d'ailleurs aussi, dont on peut citer Novak Djokovic, hein, le tennisman mondial, apportent leur soutien à ce mouvement également. Un incident a quand même défrayé la chronique lors de ce rassemblement de samedi dernier, un rassemblement qui était largement pacifique. Sur les coups de 19h, un quart d'heure de silence a été observé en l'honneur des victimes de la gare de Novi Sad. Eh bien, ce quart d'heure de silence a été interrompu par un canon à son, visiblement. L'ironie est assez forte. Enfin, sur les images de vidéo qu'on voit, c'est surtout un mouvement inexpliqué et très très rapide de la foule dans une grande rue de la capitale. La foule qui soudain se scinde en deux de manière très violente. Et les manifestants donc, ont été pris de panique, se sont rabattus sur le bord de la chaussée pour éviter quelque chose qu'on ne voit pas. Ils ont décrit un souffle chaud qui les poussait, qui les faisait tomber, assorti d'un bruit assourdissant. Et c'est donc ce qui fait que de nombreux participants et observateurs soupçonnent la police serbe d'avoir utilisé un canon sonique. C'est une arme non létale, mais interdite, puisqu'elle peut quand même endommager très gravement les conduits auditifs et faire des grandes souffrances sur le mouvement. C'est un canon sonore donc, qui est utilisé pour disperser les manifestants, qui est normalement interdit. De nombreuses personnes se sont ensuite rendues d'ailleurs aux urgences pour des malaises, maux de tête, problèmes d'audition ou dysfonctionnement de pacemaker. C'est donc un canon sonique a priori Genesis qui aurait été utilisé d'après l'hebdomadaire Nedeljnik, un canon acheté en 2022 aux États-Unis par le biais d'Israël. La police et l'armée, eux, démentent l'utilisation de ce canon, mais les images sont assez, en tout cas, perturbantes. Le mouvement d'opposition Bouge Échange Kreni Promeni a lancé d'ailleurs une pétition pour demander à l'ONU, au Conseil de l'Europe, ainsi que l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe, une enquête indépendante pour justement savoir si cette arme a été utilisée. Selon le média Nova, en une journée et demie, la pétition a réuni plus de 460 000 signatures. Un hebdomadaire de l'opposition, Vreme, explique que la manifestation a, hormis cet incident, révélé la profondeur de la crise qui secoue donc le régime du président Vučić, qui tient le pays depuis 2014. Il était d'abord Premier ministre, puis maintenant président. Le pouvoir actuel ne tient plus, dit ce journal. La Serbie n'a pas de gouvernement depuis le 28 janvier et la démission du Premier ministre Vilos Vučević. L'Assemblée nationale ainsi que la majorité des assemblées locales dominées par partis du progrès serbe au pouvoir sont désormais vides de sens. L'éducation s'est effondrée, les universités sont en rébellion, tandis que les services publics, y compris police et armée, sont léthargiques. Pour mettre fin à la crise, donc, le président pourrait convoquer des élections anticipées le 1er ou le 8 juin, avant ce média. Les étudiants donc proposent de former un gouvernement technique qui serait en charge d'organiser les élections, ce qui est donc, je le disais, la seule façon pour eux de mettre fin à la crise. Mais le président Vučić répète qu'il ne le permettrait pas, à moins, dit-il, de le tuer. Or, les médias répliquent que personne ne veut sa mort. Au contraire, les citoyens revendiquent justement des changements pacifiques et des élections honnêtes et transparentes. Et d'ailleurs, pour ces médias d'opposition, on souligne que par ses actions et ses prises de parole, le président Vučić est devenu le principal générateur de crise, une source de conflits et de violences potentielles. Voilà un article publié par Courrier International. Et vous pouvez aussi, d'ailleurs, si vous voulez suivre l'actualité de toute la région, parce que tous les pays autour suivent un petit peu la même voie, il y a un fil d'actu sur Internet qui s'intitule le Courrier des Balkans, courrierdesbalkans.fr, où vous pouvez suivre justement toutes les petites manifestations et actions qui ont lieu en ce moment. Une situation donc qui reste toujours sur le qui-vive sur place, puisque par exemple hier, ce sont les étudiants de l'université de Novi Sad, hein, la ville où la gare s'était effondrée, qui ont occupé le bâtiment l'hôtel de ville dans la soirée pour empêcher une séance de l'Assemblée municipale du jour. C'est la séance qui doit adopter le budget de la ville. La police et la gendarmerie sont intervenus à 2h du matin pendant la nuit en évacuant les étudiants à coups de matraque. Entre la nuit du 17 et du 18 mars, la bande de Gaza vient à nouveau de connaître une nuit d'horreur absolue. Des bombardements massifs ont semé la désolation, sur ce territoire déjà dévasté et peuplé de fantômes. Au moins 330 morts sont recensés donc ce mardi matin, en majorité des enfants et des femmes, et des centaines de blessés, dont des dizaines dans un état critique. Ce sont les chiffres et les explications de la défense civile de Gaza. Le bilan pourrait bien sûr être beaucoup plus lourd. Et des images insoutenables circulent sur les réseaux sociaux montrant des alignements de bébés et d'enfants tués ces dernières heures. Du côté d'Israël, les proches des otages demandent à Netanyahou et son gouvernement d'arrêter de tuer les captifs. Ils font évidemment là référence à leurs proches. C'est le Forum des familles, la plus grande association de proches d'otages d'Israël, qui implore Benjamin Netanyahou d'arrêter de tuer les personnes retenues, suite donc à ces frappes intenses menées dans la nuit du lundi au mardi. Les familles des otages exigent une réunion ce matin avec le Premier ministre, le ministre de la Défense et le chef de l'équipe de négociation, au cours de laquelle on leur rassurera comment les otages seront protégés de la pression militaire et comment on compte les ramener, détaille d'ailleurs leur communiqué. Peu de temps avant, le ministre de la Défense Israël Katz avait affirmé que l'État hébreu continuerait de combattre dans l'enclave palestinienne tant que tous les otages ne seraient pas rentrés chez eux. La minorité alaouite qui habite à l'ouest de la Syrie, elle, a été visée ces dernières semaines par toute une série d'exactions commises par des hommes armés qui soutiennent le nouveau pouvoir islamiste, en partie qui dirige le pays. On peut pour certains parler là de génocide. Alors les alaouites ont le principal tort d'être de la même confession et de la même religion que l'ancien dictateur Bachar el-Assad. Et c'est donc pour cette région que la côte de la Syrie, donc le côté ouest, a été frappée la semaine dernière par une vague de massacres et d'exactions qui visaient en particulier cette communauté alaouite. Les violences ont été déclenchées par une attaque sanglante qui a eu lieu le 6 mars de la part de partisans du président déchu Bachar el-Assad contre des forces de sécurité du nouveau pouvoir islamiste à Jablé, près de la ville de Latakié. Les autorités ont envoyé des renforts dans les provinces voisines de Latakié et de Tartous pour soutenir des opérations donc contre les pro-Assad. Mais en marge des combats, ce sont bien des civils qui ont été pris pour cible. D'après l'OSDH, l'Observatoire syrien des droits de l'homme, qui dispose d'un vaste réseau de sources en Syrie, le nombre total des victimes civiles s'élève à environ 1068, y compris femmes et enfants. Cette ONG évoque des meurtres, exécutions sommaires et des opérations de nettoyage ethnique. Les Alaouites, je vous le disais, c'est un groupe ethno-religieux qui est présent sur la côte méditerranéenne et dans l'ouest de la Syrie, notamment donc dans ses gouvernorats de Latakié et de Tartous, mais aussi dans les plaines autour de Hama et de Homs, et dans des grandes villes du pays bien évidemment. Ils représentent ainsi 12% de la population. C'est donc la première minorité confessionnelle devant les chrétiens, qui sont eux environ 10%, et les druzes, selon les données en tout cas du Quai d'Orsay. Depuis la chute de Assad et de son régime, donc le 8 décembre dernier, des tensions secouent toute la côte syrienne, avec une recrudescence des enlèvements et des fusillades, ce qui alimente les craintes de représailles contre les Alaouites. La région abrite de nombreux anciens militaires qui sont fidèles au Assad, ils sont toujours armés, également des employés du secteur public qui ont été limogés par le nouveau pouvoir. Cependant, il ne faut pas confondre la communauté alaouite qui aujourd'hui rejette Bachar el-Assad avec ses anciens partisans, qui sont environ au nombre de 5000 et qui se cacheraient dans les montagnes, explique un grand reporter au Figaro, spécialiste du Moyen-Orient, Georges Malbruno. Et on lit aussi dans cet article que les trois quarts des Syriens sont donc des musulmans sunnites, que si les trois quarts des Syriens sont sunnites, les Alaouites adhèrent à une doctrine religieuse qui est, elle, dérivée du chiisme, donc l'autre branche de l'islam, qui date environ du 9e siècle. Et elle se distingue, celle-ci, par des croyances différentes, ésotériques, qui font des Alaouites un groupe à part au Moyen-Orient. Et donc les exactions contre les civils de la semaine écoulée mettent en lumière la fragilité du gouvernement de ce nouveau leader syrien Ahmed al-Sharaa. C'est pour certains observateurs le fait qu'une grande partie de cette autorité nouvelle repose sur des djihadistes radicaux fait que pour eux les Alaouites sont des ennemis de Dieu et donc la paix de cette future nation reste fortement en danger à cause de ces grosses fractures historiques et religieuses. Partout dans le monde, en tout cas, Syriens et non-Syriens se sont unis pour condamner les massacres sur la côte syrienne par des manifestations, des rassemblements. Ils se sont déclarés solidaires des Alaouites et autres minorités persécutées des États-Unis au Canada, à l'Allemagne, la France, l'Australie, le Brésil ou la Turquie. Des voix donc en faveur de la justice et pour la fin de ces massacres se sont élevées lors des manifestations, des veillées et des rassemblements. À Paris, les agents d'entretien du campus de Sciences Po viennent de remporter une victoire après avoir mené une grève soutenue par une partie des étudiants. C'était la semaine dernière, je vous en ai parlé. Une grève pour faire connaître leurs difficiles conditions de travail qui continuaient de se détériorer. C'est une réunion de négociation qui s'est déroulée la semaine dernière, donc le mardi 11 mars, au siège de l'entreprise Atalian, prestataire de nettoyage donc à Vitry-sur-Seine, au cours de laquelle les 77 agents d'entretien, représentés par la CFDT, ont pu signer un accord qui leur ouvrait de nouveaux droits. Ces salariés ont obtenu notamment le paiement d'un 13e mois et la mise en place d'une commission mixte avec leur employeur et les représentants du personnel pour revoir la charge de travail et les qualifications de chaque personne au cas par cas. A noter d'ailleurs au cours de cette mobilisation que les étudiants de Sciences Po venus en soutien sur le piquet de grève à partir de 7h annoncent avoir récolté près de 4000 euros dans une caisse de grève qu'ils leur ont donnée. Une pétition de soutien a également été lancée par les étudiants. Elle a recueilli 2000 signatures. Cette pétition demandait justement à la direction de l'école Sciences Po le lancement d'une enquête sur les bénéfices potentiels que pourrait être une intégration de ces gens de nettoyage au personnel de l'université plutôt que de continuer à recourir de la sous-traitance. Mais, malheureusement, pendant toute la durée de cette grève, la direction de Sciences Po n'a pas reçu les grévistes, renvoyant la responsabilité vers leur employeur. Elle a juste déploré des dégradations que certains jugent largement exagérées. Et justement, à Sciences Po, on va y rester avec la politique étrangère aussi. La fin du mois de février a été marquée notamment par une exclusion de 3 étudiants de Sciences Po à la veille des vacances scolaires, une exclusion de 30 jours de l'établissement. A noter que dans ces 3 étudiants se situait la présidente de l'Union étudiante de Sciences Po, donc syndicat étudiant. Le tort reproché à la direction à ces 3 élèves, c'est d'avoir participé ou organisé les mobilisations justement en soutien au peuple palestinien. Des sanctions donc, qui témoignent de l'intensification d'une gestion répressive de l'école Sciences Po sous la nouvelle présidence de son président Louis Vassy. La gravité de cette sanction, 30 jours d'exclusion, qui touche notamment, je vous le disais, la représentante d'une organisation syndicale, acte donc un saut inédit dans la gestion répressive de l'établissement. La modalité des exclusions en témoigne puisqu'elles ont été promulguées à partir à la base d'un outil qui était mis en place pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Donc un outil du règlement intérieur qui a été détourné. Et ainsi, en 5 mois, pas moins de 40 utilisations de ce dispositif disciplinaire a été utilisé contre des étudiants mobilisés pour la Palestine. Le président Louis Vassy, qui est un ancien camarade de promotion et un ami personnel d'Emmanuel Macron, a mis au point en effet ce qu'il appelle une nouvelle doctrine pour Sciences Po. Une doctrine qui prendrait une position de neutralité sur les questions internationales et elle viserait en tout cas pour les étudiants qui ont pondu ce petit papier, qui sont eux-mêmes étudiants à Sciences Po et syndicalistes. Cette doctrine viserait avant tout à rassurer les donateurs de l'école et les entreprises notamment qui financent cette université, parmi lesquelles on peut citer AXA, la multinationale d'assurance, ou l'entreprise Carrefour, deux entités par ailleurs qui continuent toujours d'investir dans la colonisation en Cisjordanie. Pour ces étudiants, cette doctrine représente l'hypocrisie d'une institution qui cible les étudiants pro-palestiniens en laissant libre cours à l'implantation de l'extrême droite au cœur de l'école. Et voilà, c'était une petite brève retrouvée sur le média étudiant Le Point Levier, donc Le Point Levier de Sciences Po. Et à noter d'ailleurs que ça résonne aussi avec l'actualité américaine, états-unienne, pardon, au niveau des mobilisations pro-palestiniennes, puisque c'est à... sur le campus new-yorkais de l'université de Columbia que ce 8 mars, des agents fédéraux sont intervenus, donc le FBI je crois, pour arrêter Mahmoud Khalil. C'est un étudiant palestinien qui a le statut de résident permanent aux États-Unis, mais qui a le malheur d'être l'organisateur du mouvement de soutien à la Palestine l'an dernier à l'université Columbia. Une controverse donc qui monte aux États-Unis depuis l'arrestation de ce militant, arrêté par l'administration Trump, qui s'en est vanté d'ailleurs sur le campus de l'université, et qui est maintenant menacé d'expulsion. Mais encore faudrait-il que la justice trouve quelque chose à lui redire. En effet, aucun chef d'accusation n'a été rendu public. La presse accuse donc le président et son secrétaire d'État de piétiner la procédure légale et surtout la liberté d'expression, puisque ce militant n'a fait a priori que s'exprimer. Des manifestations de soutien ont ainsi éclaté de la Californie à l'Illinois et de l'État de New York, tandis qu'une pétition demandant sa libération a déjà recueilli plus de 3 millions de signatures. Du côté de la présidence, Donald Trump s'est félicité de la première arrestation d'une longue série. Il a qualifié l'étudiant de pro-Hamas. Climat. La NASA tire la sonnette d'alarme en 2024. Le niveau moyen de l'augmentation du niveau de la mer a grimpé de 0,59 cm. C'est largement plus que les 0,43 cm qui étaient prévus auparavant. C'est un constat qui a été révélé donc dans une analyse publiée ce 13 mars, issue des données donc des satellites de la NASA. Il confirme l'accélération du phénomène qui est observé depuis plusieurs décennies. Depuis 1993, les océans ont en effet gagné 10 cm en moyenne, et c'est un rythme qui ne cesse de s'intensifier. Deux causes principales pour expliquer la hausse du niveau des océans, la fonte des glaciers et des calottes polaires, qui libèrent donc d'importantes quantités d'eau douce dans l'océan, et enfin la dilatation thermique des eaux due au réchauffement. L'eau plus chaude prend un petit peu plus de place que l'eau froide. La NASA souligne en effet que cette cause principale, la dilatation thermique, est désormais responsable des deux tiers de l'élévation du niveau des mers. C'est pas tant qu'il y a plus d'eau, c'est que quand elle est chaude, elle monte. Et l'année 2024 s'est en plus révélée être l'année la plus chaude jamais enregistrée depuis le début des mesures, c'est-à-dire 1850, avec des températures records qui ont amplifié l'expansion des océans. Les conséquences de cette montée des eaux sont alarmantes. À l'échelle mondiale, c'est 1 milliard de personnes qui vivent en zone côtière et qui risquent ainsi d'être exposées à l'érosion ou aux inondations. En France, 500 communes, 20% du littoral sont menacées. Et d'ici 2050, la montée des eaux pourrait atteindre 50 cm. C'est un scénario qui rend impératif l'adaptation des territoires côtiers ainsi que la réduction des émissions de gaz à effet de serre pour limiter l'emballement climatique.
Changez le monde, vous êtes bien sympathique, mais on va déjà vous lever le matin. C'est pas le monde qui va se plier à vos désirs, les enfants. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est le vrai monde dehors. Mais le vrai monde, il va chez le coiffeur.
Des nouvelles du monde.
L'État français est une nouvelle fois condamné pour ses défaillances dans la politique de lutte contre les algues vertes en Bretagne. La justice avait été saisie en 2022 par l'association Eaux et Rivières de Bretagne et elle a donc rendu ce 13 mars un jugement qui reconnaît que les mesures mises en œuvre par le préfet de la région Bretagne sont insuffisantes pour lutter donc contre les pollutions des eaux par les nitrates, ce qui est la principale cause des marées vertes qui persistent encore sur le littoral breton et qui continuent de semer la panique, notamment la mort d'animaux et possiblement d'ailleurs sont en danger mortel aussi pour l'humain. Le tribunal donc donne 6 mois au préfet de la région Bretagne pour prendre toutes les mesures nécessaires pour réduire effectivement la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole. Les services de l'État devront également réparer le préjudice écologique dans un délai de 10 mois. Ce préjudice moral est également reconnu pour Eaux et Rivières de Bretagne et l'État condamné à verser 5 000 euros d'indemnité à l'association. L'État français a déjà fait l'objet de nombreuses condamnations pour sa gestion de la pollution par les nitrates, tant devant les juridictions nationales qu'européennes, rappelle l'association. Le problème des nitrates dans l'eau ne pourra se résoudre sans une véritable évolution du modèle agricole et agroalimentaire. Le carnaval indépendant de la Plaine à Marseille s'est déroulé ce week-end plus revendicatif que jamais et toujours aussi prisé. C'était ce dimanche, il a rassemblé plus de 13 000 participants pour un moment à la fois festif et revendicatif. Donc 13 000 personnes, selon les autorités, ont participé à ce carnaval indépendant de la Plaine Noailles réformée. C'était la 25e édition et il a finalement eu lieu sur 2 jours puisque samedi c'était déjà un gros rassemblement sur la place de la Plaine et un premier feu de joie a illuminé toute la soirée. Des déguisements colorés, des chorales, des masques, des chars et des slogans contre la répression ou l'extrême droite ont rempli les rues. Tesla, les data centers, les caméras de surveillance, les smartphones et l'omniprésence des écrans et autres technologies ont été très représentées, vilipendées par la jeunesse en nombre, créative et très enthousiaste. Et bien évidemment, à côté de tout cela et au-dessus de tout cela, ce sont les drames du 8 novembre 2018 dernier, les effondrements des immeubles de la rue d'Aubagne qui ont fait 6 morts. Et la politique donc de mal logement de la ville de Marseille restait au cœur de tous les esprits et de nombre de déguisements. D'ailleurs, le car à Montran, le char qui a été brûlé en premier, qui a été jugé aussi au cours d'un procès carnavalesque, espérait justement demander la justice du peuple pour déterminer les responsabilités dans ces effondrements. Sachant que les vrais procès sur les responsables justement se sont tenus pendant 6 semaines cet hiver, que le jugement sera mis en délibéré au 7 juillet 2025. Voilà, carnaval de Marseille donc qui s'est tenu et comme souvent, la police est venue après avoir annoncé 19h comme horaire de fin de manif, sont venus vers 22h avec des grenades lacrymogènes et un canon à eau pour vider la place avant de charger. Cela n'aura malgré tout pas pu gâcher la fête, une très belle fête sauvage et collective qui venait d'avoir lieu. Voilà. On termine ces nouvelles du monde en interview pour présenter un événement qui se tiendra ce vendredi à Sumène, donc ce vendredi 21 mars de 17h30 à 22h environ, au parc Lucie-Aubrac ou au Diguedan s'il pleut, ce qui risque d'arriver je crois, se tiendra un printemps contre le racisme, c'est la première édition. Et des stands, des jeux, une déambulation musicale, je vais laisser la parole à Yacine et Amélie, qu'on a joint par téléphone la semaine dernière pour nous présenter donc cet événement.
Yacine, bonjour. Tu es donc avec nous au téléphone pour parler d'un événement qui a lieu à Sumène ce samedi donc 21. Un événement auquel tout le monde est convié contre le racisme. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le cadre dans lequel justement va se passer cet événement, vu qu'il y a des appels nationaux. C'est une journée nationale de lutte contre le racisme. Et qu'est-ce qui vous a donné envie, l'idée de faire ça à Sumène justement ?
Bonjour Antoine. Je suis là avec Amélie aussi. Donc moi c'est Yacine. On est de Sumène tous les deux. Et effectivement, on organise le 21 mars de 17h30 à 20h sur le parc Lucie Aubrac, un goûter, soirée contre le racisme. Alors l'idée, c'est assez drôle, l'idée c'est qu'au départ, on voulait simplement, moi je voulais faire avec un ami, un spectacle de contes entre midi et 2 à l'école pour la journée internationale contre le racisme. Parce que voilà, mon fils et un copain à lui ont subi à un moment donné des insultes racistes, et puis bon, bah, on en a parlé à l'école. Et puis je me suis dit que finalement, c'était pas seulement à l'école de réagir, c'était à nous aussi en tant que parents, et puis aussi à l'extérieur de l'école, en tant que citoyen, de faire quelque chose sur ça. Et puis je trouve que le 21 mars, je me suis renseigné, ben, ça tombait pas longtemps après. Et c'est parti, de fil en aiguille, on est parlé à des associations qui ont été vraiment enchantées de se joindre à cette manifestation, parce que l'idée, c'est vraiment de créer un espace, d'ouvrir un espace où toutes les personnes qui travaillent au quotidien contre le racisme puissent s'exprimer et puis défendre des valeurs qui sont quand même des valeurs festives, hein, des valeurs de partage, des valeurs de solidarité. Je trouve que c'était une bonne manière de montrer aux enfants qu'il y avait d'autres manières de se comporter, d'autres manières de vivre, et puis de construire un avenir qui, on espère, sera radieux.
On l'a compris, une partie des gens que vous avez envie de cibler, c'est les enfants, les familles autour de l'école. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu un aperçu de ce qu'il y aura justement à découvrir? C'est dans le parc, c'est un petit peu format goûter, fin de semaine. Qu'est-ce qu'il y aura comme type de stand d'association, par exemple?
Alors, pour nous accueillir, il y aura des petits stands un peu de travaux manuels, de calligraphie persane. Il y aura une fresque avec Thierry, un peintre de Sumène. Il y a la Bougeotte qui va venir faire un café philo sur le thème du racisme adressé aux enfants. Il y aura Ganges Solidarité qui va venir avec des jeux pour enfants, des chamboultous, un atelier graffiti, aide-moi.
Il y aura des dessins aussi, il y a des ados, il y a un stand qui va être tenu par des ados, et ils vont faire notamment, ils vont faire un dessin, des petits dessins contre le racisme. Donc voilà, on peut venir et on dessine, on fait un dessin contre le racisme. Et ils vont tenir aussi un stand où ce sera, enfin, ils vont faire ce qu'on appelle un portrait géographique de l'événement, où il y aura une grande map monde et chacun va venir avec une couleur mettre un point de l'endroit où il est né, puis avec une autre couleur l'endroit où ses parents sont nés, puis avec une autre couleur l'endroit où ses grands-parents sont nés. Puis l'idée, c'est que tout à la fin, cette espèce d'œuvre collaborative, ça nous montre qu'en fait il y a des points partout et qu'on vient de partout et qu'on se retrouve à un moment donné par hasard, mais que finalement les frontières, elles se traversent, hein, et avec plaisir.
Le goûter sera offert par ce stand tenu par les adolescents.
Ouais, c'est ça.
Et suite à ça, en fin de journée, il y aura une déambulation avec Graioli, un groupe de musique qui déambule et qui chante en occitan, en portugais, en français, en catalan, et qui est aussi une belle mixité culturelle avec respect. Et pour inclure les enfants des écoles, un atelier aura lieu cette semaine pour compléter une poésie que Graioli a mis en musique.
Ouais, voilà, c'est ça exactement. En fait, on a composé un poème et Graioli nous fait l'immense honneur de reprendre ce poème en musique, et on va inviter les enfants dans les écoles, là, enfin dans l'école publique, et on va inviter les enfants à apprendre cette chanson, et donc quand on va faire la déambulation, ça va être génial, puisque les enfants, ils connaîtront les paroles du poème, et en plus c'est un poème à compléter, donc ils pourront même rajouter leur petit grain de sel. Donc voilà, en gros, tout ce qu'il pourra y avoir.
Ok, une belle proposition, une belle affiche aussi, là, que j'ai sous les yeux, avec une jolie panthère qui chevauche un arc-en-ciel, ou qui saute en arc-en-ciel. Pas mal de symboles, donc, pour ce printemps contre le racisme, ce vendredi. Tu nous as parlé des enfants et de la perception qu'ils peuvent avoir à l'école, donc même à l'école primaire, où effectivement ils sont petits, mais des fois ils entendent des choses, ils en répètent. Du coup, c'est important pour vous d'essayer de semer des graines un peu là-dessus à ce jeune âge-là.
Tu veux en parler, Amélie?
Je pense que déjà, toi, t'es bien placé puisque tu es papa.
Oui, c'est vrai. Moi, en fait, j'ai deux enfants et c'est vrai que ça fait partie des valeurs qui sont très importantes pour moi. Je fais vraiment très attention à ça. au fait que on est ensemble, on est différents, mais que en fait ces différences elles nous enrichissent. Et ça c'est quelque chose qui est assez difficile des fois à mettre en avant hein, pour les enfants, parce que des fois ils ont un élan de curiosité, puis ils ont des fois un élan de repli où ils aiment bien ce qu'ils connaissent. Et quand il y a quelque chose qu'ils connaissent pas, ils ont des fois tendance à se replier, ils ont un petit peu peur. Et tout le travail, et pour moi c'est vraiment quelque chose de très important, tout ce travail-là, c'est de cultiver une curiosité positive envers l'autre. C'est vraiment de se dire que l'autre, il n'est pas une menace, au contraire, il va augmenter notre liberté. Et ça, c'est important, c'est quelque chose, à mon avis, qui se passe dès l'enfance. Et c'est par le jeu qu'on y arrive, par le jeu, par la chanson. Et donc, c'est ces petites graines, effectivement, on sème, et puis après, on sème, et puis c'est pour la vie. Hein.
Ok, est-ce que vous voudriez rajouter d'autres petites choses sur cet événement, Yacine et Amélie ?
Alors, ce qu'on a aussi voulu mettre en avant, c'était le fait qu'on n'était pas les premiers, évidemment, à parler contre le racisme, à défendre ces causes-là. Et on s'inscrit, en fait, dans une histoire. Et je trouve que c'est toujours bien, c'est toujours intéressant de puiser chez nos prédécesseurs. Hein, on n'est pas des géants nous-mêmes, mais on est sur les épaules de nos ancêtres. Et on a fait des affiches que vous verrez si vous êtes du côté de Sumène, ou si vous venez aussi le 21, des affiches avec des portraits de plusieurs personnages qui ont compté pour nous, et puis en général contre le racisme. Donc il y a Nelson Mandela, il y a la rappeuse Cazet, Anne Frank, et d'autres personnes que vous pourrez regarder et reconnaître, Jacques Prévert aussi, avec des petites citations inspirantes, parce que la lutte contre le racisme, elle est aussi dans les deux sens. Hein. Dans le passé, il y en a aussi qui se sont battus, c'est bien de s'inspirer de ça, et puis elle est aussi vers l'avenir, donc on voulait aussi être, nous, le trait d'union de ces mémoires-là. Donc ça fait aussi partie de quelque chose qu'on trouve important. Retrouver la mémoire, réfléchir sur la manière dont on a pu se comporter en tant que peuple des fois, ou la manière dont certains États ou certains peuples ont pu subir certaines dominations. On pense qu'aller de l'avant, c'est aussi s'appuyer sur une histoire qui est bien comprise et qui met en avant pas seulement la souffrance, mais qui respecte les différentes choses qui se sont passées, et pour qu'on puisse se réconcilier, parce que l'idée c'est ça. Nous, en tout cas, dans cette fête-là, c'est cette réconciliation qu'on essaie de mettre en avant avant tout, avec notre histoire et avec notre avenir.
Voilà, le printemps contre le racisme, c'est donc à Sumène ce vendredi 21 mars. Rendez-vous à 17h30 donc dans le parc Lucie Aubrac, si tout va bien, qu'il fait beau, et sinon ça se fera au Diguedan quand même. Voilà, vous y êtes conviés, et les micros de Radio Escapade iront très certainement s'y balader. Rendez-vous en tout cas pour nous sur les ondes jeudi prochain pour d'autres nouvelles du monde. D'ici là, portez-vous bien.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Des nouvelles du monde.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interviews, communiqués. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Mais que se passe-t-il?
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30. Et pour y apporter votre contribution, info@radioescapades.org.